Les Mille et Une Nuits, tome 8, chapitre 9, Histoire du prince Behzad. Sire, continua le jeune intendant, un roi de Perse avait un fils d'une beauté si accomplie qu'il passait pour un prodige, et que personne dans toute la Perse ne pouvait lui être comparé. Ce jeune prince, dont l'imagination était très vive et l'esprit ardent, aimait les gens instruits, surtout ceux qui avaient parcouru divers pays. Il leur faisait toutes sortes de questions et causait familièrement avec eux. Un jour qu'il avait réuni un grand nombre de négociants et de voyageurs, plusieurs d'entre eux s'entretenaient près de lui de sa beauté. Il prêta l'oreille à leur conversation et entendit ses paroles. « Le prince Behzad est le plus bel homme de toute la Perse. Mais il y a dans le Turkestan une princesse qui passe pour la plus belle du monde. » Ce peu de mots piqua vivement la curiosité de Behzad. Il se tourna du côté du marchand qui parlait ainsi, et lui demanda quelle était la princesse dont il venait de faire l'éloge. « Prince, répondit le marchand, c'est la fille du roi du Turkestan. Tous ceux qui ont été dans ce pays ont entendu vanter comme moi sa beauté, et l'on dit que les qualités de son esprit ne le cèdent pas au charme de sa personne. » Ces paroles firent une telle impression sur le cœur du prince Behzad qu'il conçut aussitôt une violente passion pour la princesse. Sa santé s'altéra, son visage devint pâle, et il tomba dans une mélancolie que rien ne pouvait dissiper. Le roi son père s'aperçut de ce changement et lui en demanda la cause. Le prince se troubla, rougit, céda aux instances de son père et lui fit l'aveu de sa passion. « Pourquoi, lui dit alors le roi, t'abandonner à ta tristesse et te laisser ainsi consumer inutilement? La princesse dont tu es amoureux peut devenir ton épouse. Je vais la demander pour toi, roi son père. Ma puissance est égale à la sienne, et j'espère qu'il ne dédaignera pas notre alliance. » Dès que Behzad eut conçu l'espoir d'obtenir l'objet de sa passion, l'impatience succéda chez lui à l'abattement. Le roi de Perse envoya sur le champ des ambassadeurs au roi de Turkestan pour lui demander sa fille, en le priant de régler lui-même les conditions du mariage avec le prince de Perse. Le roi du Turkestan consentit à donner sa fille au prince à condition qu'il recevrait 600 000 pièces d'or. Le roi de Perse envoya aussitôt tout ce qui se trouvait dans son trésor et fit dire au roi du Turkestan qu'il enverrait incessamment chercher la princesse et qu'il lui ferait remettre alors le reste de la somme. Il fit part de tout cela au prince Behzad et lui dit « Tu es maintenant assuré de posséder la princesse. Il ne reste plus qu'une somme assez modique à payer à son père. Je l'aurai bientôt rassemblée et j'enverrai aussitôt chercher la princesse. » Ce retard rendit le jeune prince furieux. Il quitte brusquement son père, prend son épée, sa lance, monte à cheval, sort du palais et s'éloigne de la capitale. Il marche ainsi pendant plusieurs jours et quitte le royaume de son père dans le dessein d'attaquer une caravane et de se procurer ainsi plus promptement l'argent qui restait à payer pour compléter la dot de la princesse. Ce projet insensé eut l'issue qu'il devait naturellement avoir. Behzad, en attaquant une caravane, éprouva une résistance à laquelle il ne s'était pas attendu. Il fut entouré, fait prisonnier et conduit devant le roi du Khorassan. Ce roi, frappé de la bonne mine du prince, ne voulut pas croire que ce fût un voleur. Il l'engagea d'avouer qui il était et pourquoi il s'était porté à cet excès. Behzad eut honte de se faire connaître et, aimant mieux mourir que de déshonorer son nom, protesta au roi qu'il n'était qu'un voleur et un brigand. Le roi, toujours persuadé, malgré cela, que ce jeune homme ne pouvait être un voleur, le fit conduire en prison, espérant découvrir un jour qui il était et lui donna quelqu'un pour le servir. Quelque temps après, le bruit se répandit que le prince Behzad avait disparu. Le roi son père écrivit à tous ses voisins pour en apprendre des nouvelles et leur fit en même temps la peinture du jeune prince. Le roi du Khorassan reconnut aussitôt que le jeune homme qu'on lui avait amené comme un voleur et qu'il retenait en prison était le prince Behzad. Il le fit venir et lui montra la lettre du roi son père. Behzad parut confus et raconta au roi du Khorassan son aventure. Le roi du Khorassan lui représenta le danger auquel il s'était exposé par une conduite aussi étourdie et lui fit sentir combien il était heureux que lui-même se fût conduit avec autant de prudence et ne lui eût pas fait subir sur le champ la punition qu'il semblait mériter. Il le fit ensuite revêtir d'un habillement magnifique et lui offrit la somme qui manquait encore à la dot de la princesse. Behzad, l'ayant accepté, le roi de Khorassan lui dit qu'il allait envoyer ses ambassadeurs au roi de Perse pour l'informer de ce qui s'était passé et calmer son inquiétude. Il lui demanda en même temps s'il voulait les accompagner et retourner à la cour de son père. Persad, trop empressé d'obtenir la princesse pour songer à retourner alors en Perse, pria le roi du Khorassan de mettre le comble à ses bontés en lui permettant de se rendre directement à la cour du Turkestan. « Si je retourne auprès de mon père, ajouta-t-il, il me faudra attendre qu'il envoie chercher la princesse et que les envoyés soient de retour. Tout cela demandera bien du temps. Je suis ici sur la route du Turkestan. J'y serai bientôt arrivé et je recevrai sa main à la cour du roi son père. » Le roi du Khorassan se mit à rire et fut étonné de l'humeur vive et de l'impatience du jeune prince. « Je crains pour vous, lui dit-il, les suites de cette vivacité. Prenez garde qu'elle ne soit un obstacle à votre bonheur et ne vous empêche d'obtenir l'objet de vos vœux. » Il lui fit ensuite remettre l'argent dont il avait besoin pour son voyage, le chargea des lettres de recommandation pour le roi du Turkestan et lui donna une suite digne de son rang et de la circonstance. Le prince, transporté de joie, se mit aussitôt en chemin. Il faisait la plus grande diligence, marchait nuit et jour, et ne s'arrêtait que le temps nécessaire pour laisser prendre de la nourriture aux hommes et aux chevaux. Quelque court que fût ce temps, Persad le trouvait encore trop long. Le roi du Turkestan, prévenu de l'arrivée du prince Persad, envoya au-devant de lui les principaux seigneurs de sa cour, le fit loger dans un magnifique palais qui touchait au sien, et ordonna qu'on préparât tout pour le mariage de sa fille. 2 jours paraissaient indispensables pour les préparatifs. Mais ce délai semble un siècle à l'amoureux Persad. Il veut absolument voir la princesse et cherche tous les moyens de satisfaire son ardeur impatiente. Mais les usages de la cour du Turkestan, la vigilance de la reine, qui ne quitte pas la princesse, et la tient soigneusement renfermée, rendent inutiles les diverses tentatives du prince. Le 3e jour, qui avait été fixé pour la cérémonie du mariage, étant enfin arrivé, le prince apprend que son appartement n'est séparé de celui de la princesse que par un mur. Il l'examine avec attention, aperçoit une légère ouverture et y applique ses yeux. On était alors occupé de la toilette de la mariée. Sa mère, s'étant aperçue que quelqu'un la regardait, prit 2 fers chauds des mains des femmes qui arrangeaient ses cheveux, les introduisit dans l'ouverture et creva les yeux du prince. La douleur lui fit pousser un cri perçant. Il tomba sans connaissance. Ses gens accourent à son secours, le relèvent, le rappellent à la vie et lui demandent quel accident l'a réduit dans cet état. Son malheur lui fait alors reconnaître son défaut. « C'est mon impatience, répondit-il en soupirant. Dans quelques instants, j'allais posséder et contempler à mon aise celle qui devait me rendre heureux. Je n'ai pu attendre quelques instants. Mes yeux ont voulu jouir d'avance du plaisir de la voir. Ils en sont punis par la privation de la lumière. » C'est ainsi, ô roi, ajouta le jeune intendant, que l'impatience de Persad lui fit perdre l'espoir d'être heureux au moment où il allait le devenir, et que la précipitation de celle qui devait être sa belle-mère la rendit elle-même l'instrument du malheur de ce prince. Considérez donc les funestes conséquences de ses défauts et ne vous hâtez pas de me faire mourir. » Adalbart, ayant entendu l'histoire de Persad ou du prince impatient, parut réfléchir profondément. Il congédia l'assemblée et fit reconduire en prison le prévenu. Le 5e vizir, nommé Gherpour, se présenta le lendemain devant le roi, se prosterna humblement et lui dit « Sire, si vous aviez vu un de vos sujets porter un œil indiscret dans l'intérieur de votre palais, ou si seulement vous entendiez dire que quelqu'un eût eu cette audace, vous croiriez devoir lui faire arracher les yeux. Quel traitement devez-vous donc faire éprouver à celui que vous avez trouvé au milieu de votre appartement, couché sur votre lit royal, à un vil esclave qui a voulu attenter à l'honneur de la reine? Comment pouvez-vous différer de punir un tel crime et laisser vivre un instant le coupable? Hâtez-vous de laver cet affront dans son sang. Ce conseil, sire, m'est dicté par l'amour de mon devoir et par mon attachement pour vous. Il s'agit de maintenir le respect qui vous est dû et d'assurer la tranquillité de l'État. Prolonger plus longtemps l'existence d'un tel criminel, c'est porter atteinte à l'un et à l'autre. » Adalbart sentit alors se réveiller en lui le ressentiment de l'affront qu'il croyait avoir reçu et se reprocha de n'être pas encore vengé. Il ordonna qu'on préparât tout pour le supplice et qu'on amena le jeune homme. « Malheureux, lui dit-il en le voyant, j'ai trop longtemps différé ta punition. Ce retard compromet ma tranquillité et celle de l'État. Tu vas subir le châtiment que tu as mérité par ton crime.
Je n'ai pas commis de crime, répondit le jeune intendant avec assurance, et ne crains pas pour ma vie.
Cette crainte est faite pour le coupable. Lui seul doit redouter la punition.
Et quoiqu'il ait longtemps survécu à son crime, il éprouve enfin le sort du roi d'Adbin et de son vizir.
Je ne connais pas cette histoire, dit Atzabart.